L'ingénieux Hidalgo Don Quichotte de la Manche.
Feuilleton en 15 épisodes.
D'après le roman de Miguel de Cervantes.
Traduit par Aline Schulman.
Une adaptation de Juliette Eman.
Septième épisode.
Qui traite de la riche conquête du Haume de Membrun. Et de la liberté que Don Quichotte donna à des malheureux que l'on emmenait contre leur gré où ils ne voulaient pas aller. Sidi Ahmed Ben Engeli raconte que l'illustre Don Quichotte et son écuyer Sancho Panza marchaient depuis un moment déjà lorsque notre chevalier aperçut au loin un homme portant sur la tête quelque chose qui brillait comme si c'était de l'or.
Vois-tu Sancho, ce chevalier qui vient vers nous sur un cheval gris pommelé avec un homme en or sur la tête?
Ce que je vois moi, c'est un homme monté sur un âne gris comme le mien, avec sur la tête quelque chose qui brille.
Ce quelque chose, c'est le fameux homme du roi Membrun, protégeant la vie de celui qui le porte. Allons, écarte-toi et laisse-moi me mesurer avec ce chevalier. Tu vas voir que, sans perdre de temps à discourir, je mènerai à terme cette aventure et m'emparerai de ce homme que j'ai si longtemps appelé de mes vœux.
Comptez sur moi pour rester à l'écart.
Le chevalier que voyait Don Quichotte était en fait un barbier qui, surpris par la pluie, avait mis sur sa tête son plat à barbe. Et comme le plat était en cuivre bien astiqué, on le voyait reluire à une demi-lieue.
Défends-toi, misérable créature ! Ou cède-moi de mon gré ce qui me revient de plein droit !
Le barbier, voyant ce fantôme arriver sur lui à l'improviste, n'eut que le temps de se laisser tomber de son âne pour éviter d'être embroché. Il n'avait pas plutôt touché le sol qu'il se releva, aussi leste qu'une biche, avant de filer à travers champs, plus rapide que l'éclair.
Ce païen a agi avec sagesse. Ramasse donc le homme, Sancho.
Oh. Ma foi, voilà un beau bassin équivaut 8 réaux bien sonnants. Tenez. Oh.
Le païen pour qui ce homme célèbre fut forgé sur mesure devait avoir la tête bien grosse. Et le pire, c'est qu'il en manque la moitié. Pourquoi ris-tu, Sancho ?
Je ris en imaginant la grosse tête que devait avoir le païen pour qui on a fait ce homme. Et qui ressemble bel et bien à un plat à barbe.
Ce homme enchanté a dû tomber par le fait du hasard entre les mains de quelqu'un qui n'a pas su l'estimer à sa juste valeur, mais qui, voyant que c'était de l'or fin, en aura fondu la moitié pour en tirer profit, et avec l'autre, aura façonné cette chose qui ressemble en effet à un plat à barbe. Pour moi qui l'ai reconnu, cette métamorphose importe peu. Je le remettrai en état au premier village où il y aura un forgeron.
Ils remontèrent à cheval et sans prendre un chemin précis, car un chevalier errant se devait de n'en choisir aucun. Ils se laissèrent conduire par la fantaisie de Rocinante à laquelle se pliait volontiers son maître, ainsi que l'âne qui suivait son compagnon sans broncher, partout et toujours. Ils se retrouvèrent bientôt sur la grande route. Ils cheminaient ainsi depuis un moment quand Don Quichotte, levant les yeux, vit venir sur la route une dizaine d'hommes qui marchaient, menottes au poignet, et enfilés comme les grains d'un rosaire dans une longue chaîne de fer qui les tenait par le cou. Ils étaient accompagnés de deux hommes à cheval et de deux autres à pied, les premiers portant des arquebuses et les autres des piques et des épées.
C'est une chaîne de forçats du roi qu'on emmène aux galères.
Comment ? Est-il possible que le roi emploie la force contre certains de ses sujets ?
Oh, ce que je veux dire, monsieur, c'est que ce sont des gens condamnés pour leurs crimes à servir le roi aux galères. Des forçats.
Quoi que tu en dises, de quelque manière qu'on le prenne, ces gens sont emmenés de force et non de leur plein gré.
Ah bah, ça, c'est sûr.
Voici donc une affaire qui me concerne, car mon métier est d'empêcher que l'on fasse violence aux misérables et que l'on opprime les nécessiteux.
Mais remarquez, monsieur, que la justice qui agit au nom du roi ne fait pas violence à ces gens-là. Et qu'elle ne les opprime pas non plus. Elle les punit pour leurs crimes.
Auriez-vous, messieurs, l'amabilité de me dire pour quelles raisons vous emmenez ainsi ces pauvres gens ?
Ce sont des forçats de sa majesté qui vont aux galères, c'est tout ce qu'il y a à dire, et pour le reste, ça ne vous regarde pas.
Cependant, j'aurais aimé savoir la faute que chacun d'eux en particulier a commise pour mériter pareil châtiment.
Nous avons bien ici le registre où sont consignées les condamnations de chacun de ces misérables, mais ce n'est pas le moment de nous arrêter pour le chercher et pour les lire. Approchez-vous et interrogez-les vous-même. Ils vous répondront sûrement, car ces gens-là prennent autant de plaisir à commettre des infamies qu'à les raconter.
Quel péché, monsieur, avez-vous donc commis pour être dans une situation aussi fâcheuse ?
On m'a condamné pour avoir été amoureux.
Est-ce tout ? Eh bien, si l'on vous condamne aux galères parce que vous êtes amoureux, il y a longtemps que je devrais y tirer la rame.
Non, c'était pas le genre d'amour auquel vous pensez. Moi, j'ai été pris de tendresse pour un panier de lessive plein de beau linge. Et je le tenais tellement serré dans mes bras que si la justice ne me l'avait pas enlevé de force, il y serait encore. Comme c'était du flagrant délit, on ne m'a pas fait passer aux aveux sous la torture. Et l'affaire a été vite réglée. J'en ai eu pour 100 coups sur les épaules. Et en supplément, 3 ans pleins à faucher le Grand Pré. Voilà toute mon histoire.
Qu'entendez-vous par faucher le Grand Pré ?
Ramer aux galères.
Et vous, monsieur, quel péché avez-vous commis ?
Lui, il va aux galères parce que c'est un canari et qu'il a trop bien chanté.
Comment cela ? On envoie donc les chanteurs aux galères ?
Oui, monsieur, il n'y a rien de pire que de chanter quand on vous fait boire.
Je ne comprends pas.
Chanter quand on vous fait boire veut dire, dans le langage des malfaiteurs, avouer sous la torture. On a donné la question à cet homme et il a reconnu son forfait, qui d'être voleur de bestiaux. Il a donc été condamné à 6 ans de galère plus 200 coups de fouet dont il porte déjà la marque sur le dos. S'il est aussi triste et sombre, c'est parce que tous les autres voleurs, y compris ses compagnons de chaîne, l'insultent, le maltraitent et le méprisent, parce qu'il n'a pas eu le courage de nier jusqu'au bout.
Don Quichotte passa au troisième forçat, qui ne se fit pas prier pour répondre à ses questions.
Moi, je m'en vais faire une visite de 5 ans au Grand Pré, faute de 10 ducats.
J'en donnerais 20 de bon cœur pour vous éviter cette peine.
Ça me fait penser à quelqu'un qui est en pleine mer, mais qui, malgré tout l'argent qu'il a, meurt de faim, faute de pouvoir rien acheter. Parce que si je les avais eu au bon moment, ces 20 ducats que vous m'offrez, j'aurais pu graisser la patte au greffier et réveiller l'esprit de l'avocat. Et à l'heure qu'il est, je serai au beau milieu du Zocodo vert de Tolède. Ouais, n'êtes pas sur cette route, tenez en laisse comme un chien. Mais Dieu est grand, patience, et chacun pour soi.
Notre chevalier passa ensuite au quatrième forçat. Un vieillard avec une barbe vénérable qui lui tombait plus bas que la poitrine.
Et vous, monsieur, qu'est-ce donc qui vous a amené ici ?
Cet homme a été condamné à 4 ans de galère après avoir été promené dans les rues sur un âne, en habit de fête et en grande pompe.
Ce qui veut dire, si je ne me trompe, qu'on l'a mis au pilori.
Juste ! Et s'il a mérité ce traitement, c'est parce qu'il était courtier avec l'argent des autres et même avec leur corps. Je veux dire que monsieur est macro, avec en plus une petite pointe de sorcellerie.
Cette pointe mise à part, votre compagnon ne méritait pas de ramer aux galères pour avoir été courtier de galanterie, mais plutôt d'y commander comme amiral, car il n'est pas donné à tout le monde de s'entremettre dans les affaires de cœur.
Vous savez, monsieur, je ne pensais pas à moi. Ce que je voulais, moi, c'est que tout le monde soit content et vive en paix, sans chagrin ni querelle. Mais ces bonnes intentions ne m'ont servi qu'à être envoyé aux galères, d'où je n'ai pas espoir de revenir, vu mon âge et un mal d'urine qui ne me laisse pas un moment de repos.
Et vous, monsieur, quel est donc votre crime ?
Je suis là où vous me voyez pour avoir pris trop de bon temps avec 2 filles qui étaient mes cousines germaines, et avec 2 autres filles qui étaient sœurs, mais pas les miennes. Finalement, je me suis si bien amusé avec elle que ma famille s'est agrandie et compliquée, au point qu'il n'y a plus moyen de s'y retrouver. J'ai été reconnu coupable et on m'a condamné à 6 ans de galère.
Le dernier de la chaîne était un homme d'une 30aine d'années qui avait très bon air malgré son regard un peu croisé. Il était attaché différemment des autres, car de son pied partait une chaîne qui lui entourait tout le corps. À son cou, deux anneaux de fer, l'un rivé à la chaîne, l'autre à ce qu'on appelle un protège-ami ou pied d'ami, sorte de carcan d'où partaient deux barres de fer qui descendaient jusqu'à la ceinture, terminées par deux menottes qui lui serraient les poignets, elles-mêmes fermées par un gros cadenas, de sorte qu'il ne pouvait ni porter ses mains à sa bouche, ni baisser la tête jusqu'à ses mains.
Pourquoi cet homme est-il ainsi plus chargé de fer que les autres ?
Ce fief et coquin a commis à lui seul plus de crimes que tous ses compagnons réunis, et même enchaînés comme vous le voyez. On ne peut être sûr qu'il ne réussira pas à nous fausser compagnie.
Quel crime a-t-il bien pu commettre s'il n'a mérité que les galères ?
Il en a pris pour 10 ans, ce qui équivaut à une mort civile. Qu'il vous suffise de savoir que ce brave homme n'est autre que le fameux Ginès de Passemont, appelé aussi Ginésie de Parapille.
Eh là, doucement, monsieur le commissaire. Quand il s'agit de nom et de surnom, il faut savoir où on met les pieds. Je m'appelle Ginès et non Ginésie. Et mon nom de famille, c'est Passemont et non Parapille, comme vous le dites. Que chacun regarde la poutre qu'il a dans son œil au lieu de s'occuper de la paille qu'il y a dans celui du voisin.
Baisse un peu le ton, gibier de potence, si tu ne veux pas que je te fasse taire à ma façon.
L'homme propose et Dieu dispose. Mais un jour, on n'osera plus m'appeler Ginésie de Parapille.
C'est pourtant bien ainsi qu'on te nomme, espèce de menteur.
Ouais, mais je m'arrangerai pour que plus personne ne se le permette. Ou je m'arracherai avec les dents tous les poils que j'ai où je pense. Si vous souhaitez nous donner quelque chose, monsieur le chevalier, faites-le et allez-vous-en. On commence à en avoir assez et que vous vouliez tout connaître de nos vies. Si vous voulez connaître la mienne, reportez-vous à l'histoire que moi, Ginès de Passemont, j'ai écrite. Avec les 5 doigts de cette main.
Cela peut paraître incroyable, mais c'est la vérité. Il a laissé son manuscrit en gage à la prison, pour 200 réaux.
Et j'espère bien le dégager, même s'il devait m'en coûter 500 ducats.
Et quel en est le titre ?
La vie de Ginès de Passemont.
Ce livre est-il achevé ?
Comment le serait-il, si ma vie ne l'est pas ?
Tu m'as l'air ingénieux.
Et malchanceux. La malchance s'acharne toujours sur les gens d'esprit.
Elle poursuit les coquins de ton espèce.
Je vous ai déjà recommandé d'y aller tout doux, monsieur le commissaire. On vous a pas chargé de maltraiter les pauvres gens que nous sommes, mais de nous mener où sa majesté l'a ordonné. Et puis non, ça suffit. En route.
Tu vas voir, coquin, si cela suffit.
Je vous prie de ne point maltraiter cet homme. Il ne paraît pas mal qu'un homme dont les mains sont si bien attachées ait la langue un peu libre. De tout ce que vous m'avez confié, mes chers frères, j'ai pu conclure que, bien que votre châtiment soit la juste punition de vos fautes, il ne paraît pas être de votre goût, et que vous partez ramé aux galères, contraint et forcé. Toutes les choses que j'ai entendues me commandent d'accomplir à votre égard les devoirs pour lesquels Dieu m'a envoyé en ce monde, ceux de l'ordre de la chevalerie que je professe et le vœu que j'ai fait de défendre les faibles et de les protéger contre l'oppression des plus forts. Mais comme je n'ignore pas que c'est une marque de sagesse que de ne pas recourir à la violence quand on peut agir par la douceur, je prierai donc monsieur le commissaire et ces messieurs les gardiens de bien vouloir vous détacher et de vous laisser aller en paix. Il se trouvera toujours des gens pour servir le roi en cas de nécessité guerrière. Je vous le demande, messieurs, avec calme et courtoisie. Si vous me l'accordez, je vous en serai reconnaissant. Mais si vous refusez, cette lance, cette épée et la valeur de mon bras sauront vous y obliger.
En voilà une plaisanterie. C'est tout ce que vous trouvez à dire au bout du compte. Vouloir que nous relâchions des forçats comme si nous avions le droit de les laisser libres et vous le droit de nous le commander. Passez votre chemin, mon bon monsieur, et redressez-moi un peu ce bassin que vous avez sur la tête au lieu de chercher 5 pattes à un mouton.
C'est vous qui êtes le mouton et le larron !
Et sans autre préambule, Don Quichotte attaqua si brusquement le commissaire que, sans lui laisser le temps de se défendre, il l'envoya rouler à terre d'un coup de lance, gravement blessé. Heureusement pour Don Quichotte, c'était l'homme qui portait le fusil. Les autres gardiens, d'abord surpris et déconcertés par cette attaque inattendue, se ressaisirent. Empoignant qui son épée, qui sa pique, ils se précipitèrent sur Don Quichotte qui les attendait de pied ferme. Et notre chevalier aurait passé un mauvais quart d'heure si les galériens, voyant l'occasion qui s'offrait de recouvrer leur liberté, n'en avaient profité en s'efforçant de briser la chaîne qui les attachait l'un à l'autre. La confusion était si grande que les gardes, tantôt poursuivant les galériens qui se détachaient, tantôt attaquant Don Quichotte qui lui-même les attaquait, ne purent rien faire de bon. Sancho, pour sa part, vint en aide à Ginès de Pasmont, qui, le premier délivré, se précipita sur le commissaire étendu sur le sol, et, lui ayant ôté son épée, s'empara de son fusil et coucha en joue tantôt l'un, tantôt l'autre des gardiens, mais sans jamais tirer. De sorte qu'il n'y eut bientôt plus aucun gardien en vue. Ils avaient fui le champ de bataille sous la menace du fusil et des pierres que faisaient pleuvoir sur eux les autres galériens enfin délivrés.
Monsieur, il m'est avis qu'il serait plus prudent de quitter les lieux sur le champ.
Tu as peut-être raison, mais c'est à moi de décider de ce qu'il convient. Approchez, vous autres. Vous ne pouvez manquer de reconnaître, messieurs, la faveur, car elle est manifeste, dont vous m'êtes redevable. Tout ce que je vous demande en paiement, c'est que vous remettiez au cou cette chaîne dont je vous ai délivré et que vous alliez, sans plus attendre, dans la ville du Toboso, vous présenter devant Madame Dulcinée. Vous lui direz que vous venez de la part du chevalier à la triste figure, son chevalier servant, et vous lui raconterez point par point comment s'est déroulée cette fameuse aventure jusqu'à votre mise en liberté. Après quoi, vous pourrez aller où bon vous semble et à la grâce de Dieu.
Monsieur notre libérateur, ce que vous nous commandez est impossible, car nous ne pouvons partir ensemble sur le chemin. Au contraire, nous devons nous séparer et aller chacun de notre côté pour échapper à la Sainte Hermandade qui sera bientôt à nos trousses. Mais ce qui me paraît que vous devriez faire, c'est de remplacer cet hommage que nous devons rendre à votre dame Dulcinée du Toboso par quelques douzaines d'Ave Maria et de Credo que nous dirons à votre attention. Ça, nous pourrons l'accomplir, de jour comme de nuit, en fuite ou en repos, dans la paix comme dans la guerre. Mais si vous croyez que nous allons reprendre notre collier de misère, je veux dire la chaîne, et nous mettre en route pour le Toboso. C'est comme si vous disiez qu'en ce moment il fait nuit, quand il n'est que 10 heures du matin, ou que les poules auront bientôt des dents.
Sacrebleu! Puisqu'il en est ainsi, monsieur le fils de putain, sieur Ginésule de Pacotille, ou de je ne sais trop quoi, vous irez là-bas tout seul, la queue entre les jambes, et avec toute la chaîne sur le dos.
C'est un fou. Montrons-lui à qui il est affaire. Hey!
Sancho se mit derrière son âne et s'en fit un rempart contre la volée de pierres qui s'abattait sur eux. Mais son maître ne put éviter de recevoir bon nombre de ses projectiles, lancés avec tant de force qu'il en fut renversé par terre. Aussitôt, l'un des forçats lui sauta dessus et lui ôta le plat à barbe, dont il lui donna 3 ou 4 coups sur le dos, puis qu'il frappa au moins autant de fois contre le sol, ce qui le mit en miettes. Les forçats prirent ensuite au pauvre chevalier la casaque qu'il portait par-dessus son armure, et il lui aurait ôté jusqu'à ses bas, si les jambières ne les en avaient empêchés. Ils débarrassèrent Sancho de sa veste et le laissèrent en chemise. Puis, ils partagèrent entre eux les dépouilles du combat, et chacun s'en alla de son côté, plus soucieux d'échapper à la Sainte Hermandade que de reprendre la chaîne et d'aller se présenter à Madame Dulcinée du Toboso. Il ne resta plus sur la route que l'âne Rocinante, Sancho et Don Quichotte. L'âne, triste et pensif, secouant de temps à autre la tête comme s'il entendait encore les pierres lui siffler aux oreilles. Rocinante, couché près de son maître et lui aussi terrassé par l'assaillant. Sancho, en chemise et tremblant de peur en pensant à la Sainte Hermandade. Don Quichotte, tout contrit de se voir maltraité par ceux-là même à qui il avait fait tant de bien.
On a raison de dire que faire le bien à des rustres, c'est jeter de l'eau à la mer. Si je t'avais écouté, Sancho, j'aurais évité cette déconvenue. Mais ce qui est fait est fait. Patience, cela me servira de leçon.
Ça vous servira de leçon comme je suis turc. Mais écoutez mon conseil. Retirons-nous quelques jours dans la montagne, parmi les rochers et les broussailles, pour échapper à la Sainte Hermandade qui doit déjà être à nos trousses.
Don Quichotte remonta à cheval sans répliquer. Sancho prit les devants avec son âne et ils s'enfoncèrent dans la Sierra Morena. Dès que Don Quichotte se vit au milieu des montagnes, il se sentit tout ragaillardi. tant ces lieux lui semblaient propices aux aventures qu'il cherchait. Il repassait dans sa mémoire les événements merveilleux qui étaient arrivés à des chevaliers errants dans des parages identiques. Et ses pensées l'absorbaient et le transportaient au point qu'il en oubliait le reste du monde. Cheminèrent une bonne partie de la journée pour finir par s'installer pour la nuit entre deux rochers, à l'abri d'un bouquet de chênes lièges. Mais la fatalité voulut que Ginès de Passemont, l'insigne voleur, libéré de ses chaînes par la grâce et la folie de Don Quichotte, avait lui aussi décidé de se cacher dans ces montagnes. Le destin et la peur le conduisirent à l'endroit même où se trouvaient Don Quichotte et Sancho. Et comme les méchants sont toujours des ingrats, Ginès résolut de voler l'âne du valet pendant qu'il dormait. Quand l'aurore parut, Sancho se retrouva sans son baudet.
Oh, fils de mes entrailles, toi qui es né dans ma propre maison, joie de mes enfants, délice de ma femme, envie de mes voisins, soulageur de mes fardeaux, bref, nourricier de la moitié de ma personne, car avec les 26 maravédis que tu me rapportais par jour, tu couvrais la moitié de mes dépenses.
Que se passe-t-il, Sancho? Pourquoi te lamentes-tu ainsi?
Mon âne, monsieur! On m'a volé mon âne!
Console-toi et prends patience. Je te promets de te donner une lettre de change de 3 anons à prendre sur les 5 que j'ai laissés chez moi.
Sancho calma ses sanglots, sécha ses larmes et remercia son maître de la faveur qu'il lui faisait.
À suivre, l'ingénieux Hidalgo Don Quichotte de la Manche. Un feuilleton adapté par Juliette Eman, d'après le roman de Miguel de Cervantes. Traduit par Aline Schulman et publié aux éditions du Seuil. Conseillère littéraire, Catel Guillou.
Septième épisode.
Avec
Daniel Kenningsberg,
Bernard Ménez,
Laurent Ferraro,
Yvon Martin,
Julien Lucas,
Fred Ulysse,
Christophe Van de Velde,
Antoine Joly,
Lionel Mur,
Charles-Éric Petit
et Lio Test.
Musique originale,
Sébastien Schouler.
Bruitage, Elodie Fiat.
Prise de son, montage, mixage,
Benjamin Vignal,
Mathieu Leroux.
Assistante à la réalisation, Laure-Hélène Planchet.
Réalisation, Cédric Ossier.